il faut qu'on prenne le câble.
Ouais, on va prendre un petit bout de câble, il faut qu'on prenne le perfo pour pouvoir fixer les prises, et on va aussi prendre la visseuse là pour traverser directement l'alu. Je pense que ce sera le plus simple.
On va le couper ici, le câble, parce que là il y a quand même il y a une 150 mètres là. Il nous en faut 10.
On va déjà vérifier où est-ce qu'on peut se repiquer, s'il y a une boîte dans le faux plafond ou pas, et après on viendra couper la longueur qu'il nous faut.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
À 180 degrés.
Rebondir, ce n'est pas qu'une question de pelote pour Cyril Frugier qui a trouvé son nouveau terrain de jeu dans l'électricité. À 40 ans, cet éducateur sportif corrézien s'apprête à jouer un tout nouveau tournoi, quand câbler et raccorder peut ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles qui ne sont pas prêtes de battre de l'aile. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver en Corrèze, à Naves précisément, où vous êtes en train de travailler avec votre collègue Steve au sein du siège d'une banque. Alors, Cyril, vous êtes éducateur sportif au comité de la pelote basque de Corrèze et vous êtes en pleine reconversion vers le métier de technicien d'équipement et d'exploitation en électricité, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait, c'est ça.
C'est un peu compliqué comme nom hein, pour électricien.
T3E, ça va plus vite.
Alors, au départ, vous avez un bac compta-gestion et vous êtes devenu éducateur sportif en pelote basque. Alors c'est assez précis, ça n'a rien à voir.
Non, absolument rien à voir. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé en BTS et puis je ne me voyais pas derrière un bureau toute ma vie. Donc j'ai décidé d'aller travailler, de quitter mes études. Et puis j'étais joueur de pelote et mon ancien éducateur qui quittait son poste m'a proposé de le remplacer. Ça fait donc presque 20 ans que j'y suis à Brive au comité départemental.
Alors pourquoi au bout de 20 ans changer de voie?
Une envie de changement un petit peu, de voir un petit peu d'autres métiers et puis que je bricolais beaucoup à la maison et puis j'ai choisi un secteur et je me reconvertis sur ce secteur-là.
Et puis peut-être des obligations au bout de 20 ans.
Oui, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Quand on est éducateur, on travaille un petit peu à l'envers des autres. On travaille le soir, on travaille le week-end. J'ai deux enfants, donc c'est vrai qu'avoir des horaires de journée, c'est quand même un peu plus agréable.
Donc vous êtes renseigné sur d'autres corps de métier. Vous aviez déjà peut-être des idées?
Tout ce qui est métier du bâtiment, moi j'aimais beaucoup. Le placo, l'électricité, la plomberie. J'aime bien bidouiller les fils, donc je suis parti sur le secteur de l'électricité.
Résultat, vous avez été le premier dossier sur le dispositif Transition Collective Nouvelle-Aquitaine. Alors il doit y en avoir 3 je crois en Nouvelle-Aquitaine et à peu près 70 en France, destinés aux salariés. Alors ce dispositif, appelé aussi Transco, est co-construit avec des partenaires sociaux dans le cadre du plan France Relance du gouvernement.
Ce dispositif, il est à la demande de l'employeur. Ce n'est pas le salarié qui le fait, c'est l'employeur. Pour des secteurs qui sont en difficulté, en partie du au Covid, et pour des secteurs porteurs, comme les secteurs du bâtiment, par exemple. Je l'ai découvert, ce dispositif, en me renseignant auprès de Transition Pro, puisque je savais qu'ils avaient différents dispositifs, un démissionnaire, un projet transition professionnelle, et ce nouveau dispositif qui venait juste d'arriver, transition collective, qui est un petit peu différent des autres, puisqu'il est à l'origine à la demande de l'employeur.
Quels sont les avantages?
Mon salaire est maintenu, je suis toujours salarié du comité départemental de pelote basque, toujours payé par le comité, mais mon salaire est pris en charge et remboursé au comité par Transition Pro, par le dispositif Transition Collective. Et la formation est aussi prise en charge par Transition Collective.
Et parallèlement, vous avez bénéficié du conseil en évolution professionnelle, mais c'est obligatoire.
Oui, tout à fait. Pour monter le dossier Transition Collective, il est demandé de faire appel à une personne dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle et qui puisse certifier du caractère réel et sérieux de la demande.
À noter que c'est un service gratuit et confidentiel. Vous en avez bénéficié avec un des opérateurs en région et Pôle emploi fait partie des 5 opérateurs pour ce service.
Tout à fait.
Donc vous êtes renseigné sur les types de formations qu'il y avait et c'est là où vous êtes arrivé au Greta du Limousin de Brive-la-Gaillarde.
Alors, je cherchais donc dans le domaine de l'électricité en essayant de trouver un organisme de formation qui soit pas trop trop loin de chez moi. Et le Greta du Limousin me permettait de faire la formation chez eux. Donc, on en a fait la demande.
Qu'est-ce qu'on apprend durant cette formation? Parce que dans l'esprit de beaucoup de personnes, électricien, comme vous avez peut-être cru au départ, c'est simplement bidouiller des fils. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué quand même.
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Tout d'abord, on a repris toutes les bases en formation d'électrotech, donc les formules, toutes les formules mathématiques à reprendre, U égale RI, P égale UI, qui sont parmi les plus connues. Et puis adapter un petit peu à tous les appareillages qu'on peut brancher, sachant que cette formation, elle est à la fois partie bâtiment domestique, donc toute l'électricité qu'on a à la maison, mais aussi l'électricité tertiaire, donc tout ce qui va être magasin, bâtiment, et puis l'électricité industrielle, où là on rentre dans un domaine qui est encore différent, puisque l'électricité industrielle n'a absolument aucun rapport avec le reste.
Qu'est-ce qui est différent ?
Tout, les armoires, le câblage, l'appareillage est différent, parce qu'il faut qu'il soit plus solide, pour pas que ça prenne feu, hein, tout simplement. Et puis les sections de câbles changent. Les outils qu'on utilise, justement, ont toujours un rapport avec les sections câbles et les appareillages.
Et durant cette formation, vous avez 10 semaines de stage obligatoire.
Oui, tout à fait. La formation dure 9 mois. Et sur ces 9 mois, on a 10 semaines de stage, réparties en 2 fois 5 semaines. Une partie orientée plutôt bâtiment. Et le deuxième stage orienté plutôt vers le tertiaire et l'industriel.
Donc là, vous avez déjà effectué votre premier stage ?
Oui, tout à fait, en bâtiment. Moi, je me suis totalement éclaté avec des collègues super sympas. On a travaillé sur des rénovations d'installations, d'appartements, de maisons. C'était top.
Et là, depuis le 6 décembre, vous avez intégré Everlake à Tulle pour 5 semaines.
Alors là, je vois une autre partie de l'électricité qui est un petit peu moins connue du grand public, puisque là, on travaille sur l'électricité industrielle. La semaine dernière, on a passé beaucoup de temps sur un barrage hydraulique, à refaire une armoire entière électrique, avec les vannes, avec les turbines, avec tout ce qu'il y a sur un barrage hydro, quoi.
Ça a l'air un peu compliqué comme ça.
C'est très compliqué, mais c'est très intéressant. On apprend tous les jours, de toute façon, dans le monde de l'électricité.
Vaut mieux éviter de faire des erreurs sur des installations comme ça ?
Alors oui, tout à fait, il vaut mieux éviter de faire des erreurs. Après, quand on débute, on fait des choses assez basiques et puis on apprend au fur et à mesure aussi. On n'apprend pas qu'à l'école, on apprend beaucoup, beaucoup sur le terrain. Et on nous fera certainement confiance à un moment donné quand il faudra faire des choses un peu plus complexes. Mais pour l'instant, c'est les plus anciens qui font les choses les plus importantes et les plus dangereuses.
Cyril, en parlant de plus anciens, je crois qu'il y a votre collègue Steve qui vous attend pour installer une prise, c'est ça ?
Oui, une double prise, tout à fait, c'est ça.
Ben, j'ai ouvert le faux plafond là, du coup on va devoir rajouter une boîte pour se repiquer sur le circuit existant. À 3 mètres de haut, on va mesurer pour percer et on va mettre les prises.
Alors, on va pouvoir qu'on détermine lequel c'est des trois. Okay. Là, on a trois circuits là.
On va déjà aller voir au TGBT pour couper.
On va identifier le bon circuit
et on va faire la boîte. Okay. Allez.
C'est pas un peu compliqué au départ de s'y retrouver, enfin ça vous apprenez en formation, mais enfin, pour moi là tous les fils se ressemblent.
Ah, il y a des repérages, il y a des petits trucs qui font qu'on sait à peu près qu'est-ce qui passe à peu près où. Et puis après, on a des appareils qui nous permettent de mesurer aussi, de vérifier quel circuit va où.
Ça se fait pas au hasard. Et quand on a plein de fils identiques comme ça, la base, c'est l'identification des câbles.
C'est quand même assez polyvalent, parce que vous passez aussi bien, j'allais dire, d'un bâtiment normal à un site industriel.
C'est ça, et on peut du coup venir attirer un câble téléphone qui est vraiment petit, à du gros câble en section, qui est quelque chose de plus imposant, beaucoup plus physique et complexe à mettre en œuvre en place.
Bon, du coup, on va au tableau, là.
C'est ça, c'est parti.
Ça va être avec un gros carré.
C'est un carré.
Ouais. Faut que j'aille chercher au camion.
As-tu là le...
Ouais. Il faut qu'on identifie le départ associé au lieu d'intervention où on doit couper et pour travailler hors tension, en sécurité. Et donc on se réfère au schéma, déjà premièrement, du TGBT. TGBT, c'est le tableau de distribution électrique de chaque bâtiment. Moi, je suis à la recherche de l'alimentation en soi, donc de la salle de pause ou salle de repas, puisque c'est là où on doit interagir. C'est pas repéré ainsi, on n'a que boîte de dérivation. Donc il va falloir que je fasse travailler un peu les ménages et que je trouve le bon disjoncteur. On a souvent la contrainte également comme ça en entreprise où forcément on travaille en même temps que les personnes de l'entreprise en soi et on ne peut pas forcément couper l'installation électrique totalement ou même partiellement. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut vraiment déterminer avec exactitude l'endroit où on doit couper pour ne pas créer...
Faire sauter tous les ordinateurs, ça doit être un petit peu embêtant.
C'est ça, surtout dans une structure comme celle-ci où il y a beaucoup d'informatique, effectivement.
Alors du coup, comment ça se passe? C'est à Cyril de le trouver par exemple et vous superviser ou...
Pour l'instant, c'est lui qui me dit voilà, c'est là. Et puis après, j'interviens avec lui à installer la ligne, les conducteurs, les boîtes, faire les raccords avec les bornes de connexion et puis installer l'appareillage. Et après, faire les essais, bien entendu.
Je vois là le logo noir et jaune avec un petit bonhomme qui, on dirait qu'il est en train de se faire électrocuter. C'est ça ou pas? C'est pas très rassurant. C'est quoi le plus grand danger au final?
Alors, les dangers de l'électricité, il y en a quand même pas mal. Oui, effectivement, ce logo signifie qu'il y a un danger, que les personnes, il n'y a que des personnes habilitées qui peuvent ouvrir cette armoire et intervenir. Nous, on a passé 4 habilitations au Greta. Sur l'électricité, sur les dangers, électrocution, électrisation, il y a beaucoup de choses où il faut faire attention. Les flashs, on a ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle, à porter sur chaque intervention, des gants, une visière, tout un tas de choses pour les dangers de l'électricité, hein, parce que l'électricité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais ça peut être très dangereux.
Cyril, tout à l'heure, vous parliez des obligations. Est-ce que c'est aussi un métier qui en a moins, j'allais dire, de par les horaires? Comment ça se passe?
De base, on a des horaires, entre guillemets, classiques, un peu de, on va dire, de bureau, entre guillemets. Mais après, il peut arriver qu'il y ait des dépannages, des choses comme ça. Hier soir, par exemple, on avait une barrière de voiture qui était bloquée, qui ne voulait plus fonctionner. On est parti à 17h alors qu'on était censé débaucher. On est parti dépanner la barrière. Oui, il y a des dépannages, il y a des horaires... des fois un peu compliqué, mais ça reste pas très souvent, quoi. Non, en règle générale, on a des horaires de journée. Ouais.
Il va falloir qu'on regarde si les prises sont identifiées là-bas. Si c'est pas le cas, on va être obligé de suivre le circuit pour tomber sur la boîte de dérivation et trouver le disjoncteur associé. Tous les disjoncteurs sont associés à des boîtes de dérivation, en fait.
Comment tu sais ça?
J'étais à la recherche d'un disjoncteur, moi en gros, qui s'appelait salle de repas, salle de pause, étant donné que c'est là qu'on est. Oui. Et là, si on regarde, tout est repéré, boîte Intel. Donc nous, il va falloir qu'on cherche la boîte qui nous correspond. Quoi.
Qui doit être numérotée sur la boîte?
Ben, soit on arrive à le trouver directement sur les prises, soit sur la boîte.
D'accord.
Parce que tu vois, là, il est marqué donc, de temps à temps, de telle prise à telle prise. Donc si les prises là-bas sont repérées, on va pouvoir trouver comme ça, sinon il faut chercher la boîte.
En partant à l'aventure. Alors.
C'est ça.
Une petite question bête, l'électronique, ça n'arrête pas d'évoluer? Du coup, il faut toujours être à la page.
Oui, il y a des évolutions, mais au début, on était sur des portes-fusibles où on mettait des fusibles avant, et dès que ça sautait, c'est le fusible qui claquait à l'intérieur, il fallait remplacer le fusible. Maintenant, on est sur des disjoncteurs, donc qui, eux, tombent en cas de court-circuit, et il faut qu'on les remonte. C'est pas de la grosse amélioration en soi. Quoi.
Okay. On a travaillé au Greta sur des disjoncteurs avec moteur.
Oui.
Avec des petits moteurs, voire même des moteurs connectés, où on pouvait monter, baisser les disjoncteurs à distance.
Ça fait partie de l'évolution. Ouais. Dans les gros chantiers qu'on fait, notamment EDF, on a les inverseurs de source qui sont... Avant, ils étaient manuels, donc quand on perdait une source, ils venaient manuellement basculer sur la nouvelle source, alors que maintenant, ça se fait automatiquement. Dès qu'on perd la première source, ça bascule automatiquement sur la première. C'est plein d'électronique. Ça fait partie du progrès, c'est l'évolution des choses.
Votre métier, il est un peu en voie de disparition, non, du coup, avec ça?
Oh non, pas du tout. Non, on a quand même encore de la marge. Ça devrait aller.
Il y a du boulot. On s'aperçoit que dans le bâtiment, il y a beaucoup de boulot. Dans l'indus, il y en a aussi. Et c'est très, très diversifié. Hein. Je vois ce qu'on fait depuis la semaine dernière. On va de la haute tension à la très basse tension. Enfin, c'est impressionnant. On ratisse un peu tous les secteurs possibles du câblage et de l'électricité. Hein.
C'est plus l'inverse, on va dire. Des fois, on arrive même à avoir des clients qui nous râlent un peu parce que nous, on installe des choses qui vont limiter les postes de travail derrière, mais enfin, ça limite pas notre travail à nous. Nous, notre travail, il est toujours aussi conséquent. Quoi. Mais c'est vrai que ça nous arrive des fois d'installer de la robotique, des choses qui n'ont plus besoin de forcément d'autant de personnes humaines pour travailler. Et, ça dérange.
Cyril, est-ce que vous avez envie de continuer de vous former pour être sûr d'avoir du travail?
Justement, je suis en train de remonter un dossier pour faire une formation en installation sanitaire. Alors oui, c'est plus l'aspect plomberie, mais je me suis aperçu lors de mon premier stage en bâtiment que les électriciens bâtiments en général aimaient bien avoir la double compétence avec la plomberie, du moins sur la partie bâtiment. En indus, c'est un peu différent. C'est quand même assez complexe l'électricité industrielle, donc en général, ils ont chacun leur secteur bien défini, les chauffagistes, les climaticiens, les électriciens. En bâtiment, c'est souvent les mêmes personnes qui font la même chose. Et puis pour gagner un peu mieux sa vie, avoir plusieurs compétences peut faire valoir un salaire supérieur aussi. Et puis oui, moi, je pense que l'électricité et la plomberie, c'est deux secteurs où il y aura toujours du travail. Clairement, moi, la sécurité, entre guillemets, de l'emploi, dans le sens où si je veux, j'ai du boulot, c'est ce qui m'intéressait aussi dans ma reconversion, quoi. En étant éducateur de pelote basque en Corrèze, j'avais peu de chances de retrouver un poste dans le secteur. Donc trouver un métier où je puisse taper à la porte de différentes entreprises, ça pouvait être intéressant pour mon avenir aussi.
Merci Cyril, merci Steve. Je vais vous laisser à la tâche la plus difficile maintenant, je crois.
C'est ça, déterminer les circuits, c'est une tâche assez compliquée. Quand c'est pas nous qu'on a fait l'installation de base, il faut se mettre dans l'installation et ça reste, suivant les cas, très compliqué.
Eh bien, bon courage, bonne continuation et bonne reconversion.
Okay, merci beaucoup.
À 180 degrés.